Et bonjour Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui rappelle, qui apprend que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, pertinente ou moins, les petites images qui bougent si possible sur les grands écrans mais partout où vous voulez, sinon depuis maintenant 1895 et des poussières, ce qui nous fait un bail, je n'y étais pas, je rassure nos plus jeunes et fidèles malgré tout, auditeurs, ce jour, et bien 24 notes secondes va s'intéresser à la carrière d'un comédien d'origine canadienne, je l'aurais plutôt vu anglais pour ma part, né Arthur Christopher Orme le 13 décembre 1927 à Toronto. Je sais bien, vous ne l'avez pas encore identifié, moi non plus d'ailleurs, je n'aurais pas pu. Christopher Plummer, un acteur qui peut-être ne vous rappellera pas grand-chose, mais nous allons essayer de combler cette lacune dans le cours de cette émission de 24 notes secondes, un acteur qui n'a pas non plus tenu les grands rôles au cinéma. On l'a plutôt vu en acteur de complément, sauf un ou deux que nous allons évoquer. On l'a plutôt vu en acteur de complément, mais il a su à chaque fois apporter une sorte de classe, une sorte d'élégance qui, d'une certaine manière, n'appartiennent qu'aux acteurs de théâtre. Et c'est bien ce qu'il fut, puisque dès 1942, Christopher Plummer entra dans le réputé, dit ma petite fiche, je serais bien en peine, Canadian Repertory Theatre d'Ottawa. Il fait des passages aussi à la radio et puis il débute à Broadway. Mais pendant plus d'une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, il se consacre à la scène et devient dans les années 50 l'un des grands spécialistes internationaux du répertoire shakespearien, sic. Et d'évidence, il a dû faire merveille, quoique je ne puisse en juger, en Othello, en Roi Lear, voire en Hamlet ou en Macbeth ou en ce que vous voulez, puiser dans l'inépuisable répertoire du Bard avant que le cinéma ne le rattrape en 1958 avec un premier film au titre prédestiné, puisque ça s'appelait Les Feux du Théâtre, Stage Struck de Sidney Lumet, absolument inconnu de moi. Et la même année, on le vit dans un film du regretté Nicolas Ray intitulé La Forêt Interdite. Puis, preuve que son attachement au cinéma n'était pas des plus grands, il fallut attendre presque 6 ans avant qu'il retrouve le chemin des studios. Mais de quel studio ? Et nous allons écouter un extrait de la bande originale de ce film, puisque ce fut pour celle d'un de ces péplums comme Hollywood, et puis aussi l'Italie, et puis aussi l'Espagne, en tournait beaucoup dans les années 60 pour lutter contre la concurrence de la petite lucarne télévisuelle qui commençait à s'insinuer dans les foyers américains et autres, pour lutter contre l'influence néfaste pour elle de ces petites lucarnes, l'industrie du cinéma hollywoodien avait eu l'idée de développer des films à grand spectacle, comme seul on pouvait les apprécier dans des salles elles-mêmes à grand spectacle. Et quoi de plus à grand spectacle que le genre du péplum, cette reconstitution parfois improbable de l'Empire romain, de ses fastes, de ses cruautés. On vit ainsi Ben Hur, on vit ainsi Quo Vadis, on vit ainsi le roi des rois, même si ce n'est pas tout à fait l'Empire romain. Et on vit aussi, en 1964, une chute de l'Empire romain signée par Anthony Mann et au titre quelque peu prédestiné, puisqu'en fait, en 1964, le genre et le procédé, c'est-à-dire le genre du péplum et le procédé de faire des films à grand spectacle pour concurrencer l'influence de la télévision ont commencé à s'essouffler. Et cela fut d'une certaine façon fatal à la carrière d'un film qui réunissait pourtant dans les rôles principaux Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason, Anthony Quayle, Mel Ferrer et quelques autres, dont évidemment Christopher Plummer qui faisait une composition saisissante dans le rôle de l'empereur fou Commode. Mais oui, il s'appelait comme ça, l'un des derniers empereurs avant que l'Empire ne soit livré aux barbares. La musique de ce film était signée de Dimitri Tiomkin. Alors c'est une masterpiece pour les amateurs du genre, de même que Dimitri Tiomkin fut un habitué de ce genre de superproduction. Et je vous propose d'écouter sans plus attendre ou presque le générique de ce film. Vous êtes bien dans Divergence FM et vous allez assister là en direct live à la chute de l'Empire romain. Tout l'art de Dimitri Tiomkin pour le générique de la chute de l'Empire romain, film d'Anthony Mann tourné en 1964 avec, dans l'un des rôles, pas principaux, Christopher Plummer, auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes ce jour. Christopher Plummer qui, l'année suivante, en 1965, est bien connu tout à la fois le plus, comme disait Oscar Wilde, le plus grand et le plus terrible honneur qu'on puisse faire à un acteur, c'est-à-dire qu'il eut le rôle principal d'un film qui reste encore l'un des plus rentables de tout l'histoire du cinéma, en l'espèce The Sound of Music, la mélodie du bonheur de Robert Wise, adapté d'un musical bien connu où il interprétait le rôle du baron von Trapp qui finissait par tomber amoureux de la gouvernante de ses enfants. Je ne sais plus combien il en avait, une petite demi-douzaine à l'œil, une gouvernante qui était interprétée par la délicieuse Julie Andrews, The Sound of Music, un film qui connut un succès considérable et duquel, allez, je vais vous frustrer d'en écouter un extrait de la bande originale. J'ai hésité à vous interpréter moi-même, là en direct, live, un extrait de cette bande, mais tout cela n'aurait pas été raisonnable et n'aurait guère servi ni la musique, ni Divergence FM. Dans les années qui suivirent, eh bien, d'une certaine manière, Christopher Plummer surfa sur cette vague, mais il le fit avec beaucoup de parcimonie et surtout avec beaucoup d'élection, puisqu'on le vit dans des films un peu faciles, comme la fantastique histoire vraie d'Eddie Chapman de Terence Young dès 1966, ou la pesante Nuit des généraux d'Anatole Litvak en 1967, mais on le vit aussi dans Oedipe Roi, qui ne devait pas être un film très facile, de Philippe Saville en 1968, et on le vit aussi dans des films un peu oubliables, comme Le Retour de la Panthère Rose en 1975 de Blake Edwards, cette même année où il tourna, là par contre, et je regrette vraiment de ne pouvoir vous en proposer un extrait musical, un chef-d'œuvre aux côtés de Michael Caine et Sean Connery. Voilà, quand même un beau trio masculin, un chef-d'œuvre d'après Rudyard Kipling, L'homme qui voulut être roi, The Man Who Would Be King de John Huston. Vraiment un film absolument admirable à voir. Ensuite, eh bien, nous allons écouter un petit extrait d'une autre super production qui, d'une certaine manière, une quinzaine d'années plus tard, puisque c'était en 1977, renouait plus ou moins avec le genre du péplum, puisque s'il s'agissait d'un film intitulé Jésus de Nazareth. Je pense que le titre lui-même suffit à en dire l'objet. Alors, pour être tout à fait précis, c'était à la fois un film et un téléfilm, les grands téléfilms d'une époque des années 80, où on réunissait un casting international, où tout était international, y compris peut-être une certaine médiocrité. Mais je dois dire que même si on pouvait ne pas apprécier l'imagerie très saint-sulpicienne donnée par Franco Zeffirelli à ce Jésus de Nazareth, eh bien, il était difficile de ne pas être bluffé par la beauté des décors, des costumes et de l'interprète principal dont je vous retrouverai, c'est juré, le nom après avoir écouté un extrait de cette bande originale. Une bande originale qui était signée de Maurice Jarre. Alors là encore, on prenait les plus grands de la musique de film. Robert Powell, comment ai-je pu oublier Robert Powell qui jouait de manière absolument magnifique le rôle de Jésus avec à ses côtés, j'ai retrouvé ma petite fiche, que serais-je ? Rien qu'un balbutiement. Sans ma petite fiche, retrouver à ses côtés Anne Bancroft et Ernest Borgnine qui jouaient le rôle du centurion, Valentina Cortese, James Farantino, quelques autres et donc Christopher Plummer pour une super production. Et pour donc une musique signée de Maurice Jarre dont je vous propose d'écouter sans plus attendre. Allez, un extrait sur Divergence FM. Thank you. Voilà un court extrait, hélas, tant mieux, de la bande originale de Jésus de Nazareth, un film de Franco Zeffirelli tourné quelque part en 1977 avec une musique de Maurice Jarre et avec une présence de Christopher Plummer auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes, un acteur qui n'a jamais vraiment joué les premiers rôles, mais qui fut souvent eh bien, un rôle d'appoint tout à fait intéressant dans les années qui suivirent, en 1977, là juste pour picorer quelque peu. Eh bien, Christopher Plummer fut quand même Sherlock Holmes, quel acteur anglais ou assimilé n'a pas été Sherlock Holmes, mais lui le fut de manière fort convaincante, dans un film fort convaincant aussi, Meurtre par décret, signé en 1979 par Bob Clark, qui, à ma souvenance, n'avait rien à voir avec les récits du canon originel de Sir Arthur Conan Doyle, mais s'intéressait à la lutte entre Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur, à ma souvenance en tout cas. En 1980, eh bien, on retrouva Christopher Plummer en rôle d'appoint d'une histoire d'amour ô combien séduisante, puisqu'elle était inspirée d'une nouvelle de Richard Matheson, une nouvelle magnifiquement intitulée « Le jeune homme, la mort et le temps », qui avait été publié en 1975, et Richard Matheson, eh bien, s'attela, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, à écrire le scénario de ce film qui racontait la quête romantique dans le temps, eh bien, d'un homme interprété par Christopher Reeve, alias Superman, qui s'efforçait de retrouver son amour de toujours, alias Jane Seymour. En bref, le tout était peut-être un peu trop justement romantique, mais ma foi fort bienvenue. On y écoutait la 18e variation de la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Sergei Rachmaninov, mais vous ne l'aurez pas. Non, on va écouter un petit extrait de la bande originale de ce film qui était signé de John Barry, là encore, en tout cas, là encore puisque nous l'avons déjà évoqué. John Barry, donc, qui signait une musique bien dans son genre, on aime ou pas, mais en tout cas, on le reconnaît instantanément, et vous allez sans doute le reconnaître instantanément. J'ai oublié de vous préciser que le film était tourné par notre national Jano Zwark, si on pouvait compter les noms propres au Scrabble, le diable nous en ferait rapporter beaucoup des points en l'espèce. Jano Zwark, qui après avoir signé l'opus numéro 2 des Dents de la Mer, dans un genre Something Completely Different, fut aux commandes, quelque part dans le temps, une musique de John Barry dans 24 notes secondes. John Barry dans ses œuvres pour la musique de Quelque part dans le temps, un film signé Quelque part en 1980 par Janos Farke, non pas Quelque part, Janos Farke, qui mettait dans les rôles principaux en vedette redondant Christopher Reeve, Jane Seymour, la sublimissime Missy Dr. Quinn, femme médecin, vous ne pouvez pas l'avoir oublié, et puis Christopher Plummer, auquel nous consacrons ce jour cette émission de 24 notes secondes. Christopher Plummer, qui dans les années 80, eh bien, tourna quelques films dont on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment mémorables, mais qui en tout cas en tourna beaucoup, puisque quand je regarde sa filmographie sur mes petites fiches, eh bien, je vois qu'on va en accélérant deux ou trois films dans les années 70 ou 80 et presque des dizaines dans les années 80-90. Peut-être faut-il y voir le fait qu'après avoir consacré une large part de sa carrière au musical et au théâtre, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, je l'ai vérifié ensuite, il joua beaucoup Shakespeare sur les planches et notamment le Roi Lear. C'est vrai qu'on imagine bien Christopher Plummer dans le rôle du Roi Lear. Et bien ensuite, peut-être, l'âge venant, il s'éloigna des plateaux de théâtre où quand même il faut avoir une certaine forme de santé pour retrouver ceux du cinéma. On va évoquer, là c'est vraiment pour le plaisir de la musique, très rapidement un dessin animé. Alors certes, Christopher Plummer n'y jouait pas, mais il prêtait la voix à l'un des personnages du délicieux Fivelle et le Nouveau Monde, tourné par Don Bluth en 1986. Don Bluth qui fut un temps une sorte d'alternative à Disney, et on se souviendra peut-être de Brisby et le secret de Nîmes, qui est certainement son chef-d'œuvre. Fivelle, alias An American Tale in English, était peut-être sur un registre un peu mineur, mais ça nous vaut l'occasion d'écouter un extrait de la bande originale de ce film signé de James Horner. Je ne me souviens plus s'il y a la voix de Christopher Plummer, vous allez en juger par vous-même, on rattrapera tout ça après. En tout cas, vous êtes, je l'espère, bien dans 24 notes secondes pour écouter un extrait de cette bande originale.
Oh, this is America, the place to find the hope. If you give up, you will never find your family. So, never say never. Say
never say never, whatever you do. Never say never, my friend.
Oh, tais-toi!
If you believe that your dreams will come true, they'll come true in the end.
Keep up your courage, don't ever despair.
Take heart and then come to ten. Hope for the best, work for the rest, and never say never again.
Oh, but it's impossible. I'll never find my family.
Never say never. Now say that, go on.
Never say never.
Whatever you do again.
Never.
To me, see how easy. If you believe, you can come shining through.
That's how it's gonna be.
Perfect.
Don't you better give up, give up. When the going's rough, just get your fingers, tell yourself you know you'll win.
Remember to look on the bright side till then, and never say never again.
Now, are you ready to go and find your family?
Yes!
Chantal! Take my little friend to immigration. You will find your family there.
Everyone goes through immigration.
I would take you there myself, but then I would never finish my statue.
Henri, you said never!
Oh, so I did!
Never say never.
Bonne chance! Good luck!
Goodbye!
Never say never, une leçon de vie, messieurs, dames. Ne dites jamais, jamais. Un très bon film aussi de James Bond, mais en tout cas, une leçon de vie. Je vous prie de le garder du haut de mes 83 ans, je peux vous le dire. Ça sert toujours. Never say never, un extrait de la bande originale d'An American Tale. Et c'est bien, comme les choses sont bien faites, Christopher Plummer, que vous avez entendu chanter, on va appeler ça comme ça, aux côtés d'un dénommé Philippe Glaser, tout à fait inconnu, et ses délicieux accents français dont on ne se lasse pas quand on se pique d'avoir un accent anglais plutôt approprié. Donc un petit film pour évoquer la carrière de Christopher Plummer, mais le temps passe, nous allons bientôt quitter Christopher Plummer. Je ne voudrais quand même pas le faire sans vous indiquer qu'en 2010, Christopher Plummer devint At Last, comme quoi Never Say Never, devint l'acteur le plus vieux à avoir obtenu un Oscar, puisque c'est à l'âge de 82 ans qu'il obtint un Oscar pour un film tourné en 2010, donc qui s'appelait Beginners, dans lequel on le voyait en homosexuel aux côtés d'Ewan McGregor. Ma foi, le tout, je l'ai vu, était effectivement très très bien. Et la petite histoire dit, ces choses se préparent, qu'en regardant la statuette, Christopher Plummer a dit, je vous le fais en anglais d'abord, « You are only 2 years older than me, darling. » Where have you been all of my life? Vous avez seulement 2 ans de plus que moi, ma chère. Où étiez-vous tout le reste de ma vie? Quelle élégance, la classe! Bref, Christopher Plummer, un acteur dont nous n'avons fait qu'effleurer la carrière. Et nous allons conclure, évidemment, cette émission de 24 notes secondes en écoutant un extrait, là encore signé de James Horner, de la bande originale d'un film de Ron Howard tourné en 2001. In English, ça s'appelait A Beautiful Mind. En français, ça s'appelait Un homme d'exception. Alors, le film racontait l'histoire de John Forbes Nash Jr., un brillant élève qui devint tout à la fois prix Nobel et grave schizophrène. Alors, on peut l'attester, le film prenait quelques libertés avec l'histoire réelle, mais Russell Crowe se révélait fort convaincant en John Forbes Nash et James Horner se révélait fort convaincant en écrivant la musique. Alors, pourquoi s'en priver du plaisir? Un petit extrait pour conclure. Un homme d'exception, A Beautiful Mind. So long, Christopher. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.